Allô femme, chronique du matrimoine breton.
On a commencé à faire des recherches aussi dans les fonds d'archives. Alors il y avait très peu de choses parce que les femmes, on cherche leurs traces, c'est les grandes oubliées. On les trouve, hein, mais il faut vraiment être tenace.
Dans la préface de l'ouvrage Ni vu ni connu du collectif Georgette Sand, les militantes expliquent très bien l'ambivalence du mot histoire. Histoire signifie 1. Ce qui s'est passé et 2. Le récit que l'on en fait. C'est ce que nous essayons de démontrer depuis le début de cette série documentaire. Si les femmes ont bien été présentes dans les faits, c'est du récit qu'elles ont gentiment été éclipsées. Mais comment fait-on, alors, pour un jour retrouver leurs traces ? Pour parler de la démarche de recherche, je suis allée voir Lydie Poré, militante féministe qui travaille aux archives de Rennes et qui a coécrit le livre « Les femmes sont en lutte » avec Patricia Godard, paru en 2014.
Merci beaucoup.
Alors pour cet épisode, je m'intéresse plus précisément aux méthodes de recherche. Et la grande question est, comment fait-on quand on est une personne lambda, sans statut d'universitaire ou de chercheuse, chercheur, pour se mettre à la recherche de femmes qui n'ont justement pas laissé de traces, ou presque, dans l'histoire?
Alors, ça dépend si on a un nom en tête et qu'on cherche à partir du nom d'une femme dont on a entendu parler, ou si on est ouvert, ouverte à d'autres types de recherches. Ça peut être des groupes de personnes, des étudiants, des militantes féministes, des militantes lesbiennes. Moi, j'invite très volontiers, quel que soit le cas de figure, à se rapprocher d'institutions, que ce soit les archives départementales ou des archives municipales. Je dirais que c'est une première approche. Alors, en plus, aujourd'hui, on n'est pas obligé de se déplacer. On peut directement aller voir sur les sites internet, voir les ressources. Donc, ça peut être taper le nom de la personne ou bien se lancer à dire, tiens, moi, il y a tel domaine artistique, il y a la photographie qui m'intéresse, je vais aller piocher là-dedans. Donc, c'est une première approche, aller sur les sites internet des services d'archives.
Pour un particulier, une particulière, quand on n'est pas universitaire, il peut y avoir la question de légitimité aussi qui empêche d'aller plus loin dans les recherches, de sortir de chez soi. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ?
Alors, moi, j'inviterais volontiers les personnes à se rapprocher de chercheurs et de chercheuses, s'insérer dans des groupes de travail de recherche s'il en existe, parce que c'est important d'être reconnu. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas chercheur, chercheuse à l'université qu'on n'a pas de légitimité. Et puis surtout d'avoir une méthodologie vraiment au carré pour que justement il n'y ait pas de contestation de ce qu'on avance, des propos qu'on peut tenir.
Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on est militante sans avoir le statut d'universitaire, chercheuse ou de journaliste, on a un peu plus de mal à accéder à des milieux universitaires, par exemple, et d'être publié.
Oui, voilà. Donc, dans ce cas-là, on peut s'autonomiser et avoir ses propres supports d'édition. C'est vrai qu'Internet, aujourd'hui, ça permet plein de choses. Et puis, moi, je crois quand même en la force du collectif. Quand on est dans le champ de la recherche sur les femmes, le genre, les féminismes, on peut quand même mieux s'en sortir que dans d'autres domaines parce qu'il y a un réseau militant qui est fort, une attente sociale qui est forte, même si c'est toujours pas des champs de recherche encore légitimes à l'université. Néanmoins, ils le sont de plus en plus. Et il y a toute une partie de la société qui a envie d'en savoir plus sur les femmes, sur leur histoire, les contributions, etc. Donc, je pense néanmoins que dans un contexte globalement peu favorable à la recherche non universitaire, quand on est dans le champ de l'histoire des femmes, des féminismes et du genre, on a quand même des atouts.
Mais est-ce que ce ne serait pas pour ça aussi que s'il y a autant de femmes oubliées, si peu de sources, c'est parce que finalement leur histoire elle a été écrite ou retracée par des personnes militantes dans leur coin et donc qui n'ont pas été diffusées à la même échelle que des documents universitaires de chercheurs et chercheuses?
Alors, j'y avais pas pensé, mais c'est une hypothèse hyper intéressante. C'est vrai que Internet et les outils actuels, ils permettent de déjouer ça. Mais c'est assez intéressant, effectivement, de penser que jusqu'ici, il y a des histoires qui peut-être ont été faites, mais qui ne nous sont pas parvenues parce que elles n'étaient pas perçues comme légitimes.
Des histoires qui restent à faire, en tout cas, il y en a plein. On tombe toutes et tous, un jour, sur un nom qui nous est inconnu et qui nous intrigue. Ça vaut le coup de creuser un peu parfois, car derrière un nom se cache souvent une histoire surprenante.
C'est vrai que c'est assez complexe, un appareil photo argentique.
Bah, c'est difficile de savoir quelle est sa sensibilité. Ensuite, l'objectif que tu as, il va falloir savoir quelle est son ouverture, ce qui n'est pas forcément simple. Et enfin, le tempo, faire 1/500 de seconde, mécaniquement, c'est pas simple, et à la main, encore moins.
Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir qui était la première personne à avoir fait ça, à avoir réussi à prendre une photo en extérieur.
Au cours d'une conversation avec un ami qui pratique la photographie argentique, j'ai découvert un nom.
Ah bah tiens, Elisabeth Disdéry. Tu la connais, toi ?
Non.
Sur Wikipédia, on peut lire qu'Elisabeth Disdéry est l'un des rares photographes au 19e siècle, en raison des difficultés techniques, à prendre des photos en extérieur et des photos d'œuvres architecturales, comme les ruines de l'abbaye de la Pointe-Saint-Mathieu ou le calvaire de Plougastel. Mais sur Internet, on ne trouve que très peu d'informations supplémentaires à son sujet. La plupart des rares articles français que l'on trouve sur elle sont signés Marie-Françoise Bastide Le Sourd.
Étage 4.
Alors je l'ai contactée.
Bonjour.
Et je me suis rendue chez elle, à Rennes.
On va s'installer au fond.
Merci d'avoir accepté la rencontre. Moi, je suis tombée sur votre nom en tapant en fait Elisabeth Disdéry sur Google l'autre jour parce que en France, vous êtes l'une des seules à avoir produit du contenu sur cette figure. Donc moi, ce que j'ai lu principalement, c'est que c'était l'une des premières à avoir pris des photos en extérieur. Mais sinon, d'où est-ce qu'elle venait, Elisabeth Disdéry? Elle était née en quelle année?
On a les dates de naissance de ses frères, mais on n'a pas celle d'Elisabeth Disdéry. Au vu des naissances de ses frères, et en comptant 9 mois de grossesse, ça doit être autour de 1817, entre février et mars. Mais il n'y a pas de trace dans l'état civil reconstitué de Paris.
Et elle a passé combien d'années à Paris?
Elle s'est mariée à 25-26 ans, elle a dû passer une trentaine d'années.
Qu'est-ce qui l'amène à Brest, Elisabeth Disdéry?
Elle a de la famille, sa famille était originaire de l'Est, et l'arsenal de Brest nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et donc il y a beaucoup de familles originaires de Nancy qui sont venues vivre à Brest. Personne ne sait rien de comment le couple Disdéry a accédé à la photo. Donc ce matin, j'ai revisité les écrits sur Elisabeth Francard Disdéry et j'ai trouvé un article sur le site des archives de Brest qui écrit « Eugène forme sa femme aux manipulations et aux pratiques de la photographie ». Mais il n'y a aucune trace. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve... Très fréquemment, on dit que le mari a initié son épouse à telle pratique artistique. Mais si moi j'écris « Elisabeth Disdéry Francard a formé son mari à la photographie », on me demandera d'apporter des preuves. Ça va de soi que c'est l'homme qui forme son épouse. Je trouve ça profondément injuste, hein.
Mais néanmoins, on dit que c'est Elisabeth Disdéry qui a été l'une des premières à prendre des photos en extérieur et pas son mari.
Alors, quand il s'installe à Brest, il s'installe pas tout de suite comme photographe. Donc, est-ce qu'ils ont appris à Paris la pratique de la photographie? Est-ce qu'ils l'ont apprise à Brest? Moi, j'ai rien trouvé le précisant. Mais en tout cas, le premier atelier qu'ils ouvrent, les deux noms sont bien inscrits. Donc, Elisabeth d'emblée se positionne comme photographe au même niveau, au même titre que son époux. Et alors après, le couple va se déliter, Disdéry va partir dans le Midi à Nîmes, et elle poursuit sa vie de femme seule. Après, on lui prête, comme elle était libre et indépendante, des amitiés masculines, des rencontres, et on ne dit rien de ses amitiés féminines. Je ne sais pas qui étaient les amies femmes d'Elisabeth Francard Disdéry. Dans les années 1872, elle repart à Paris, mais à ce moment-là, le nombre de photographes a implosé. Entre les tout débuts où le couple Disdéry était parmi les initiateurs de la photo commerciale à Brest, ensuite, il y a eu des dizaines de pratiquants. Donc, il y en a d'autres qui sont arrivés, qui étaient au moins aussi doués qu'elle. Et puis, tout a changé. La technique a changé, a évolué. Donc, pourquoi elle repart sur Paris? Je n'ai pas la raison précise.
Elle y reste jusqu'à sa mort à Paris ?
Oui, oui, elle y reste jusqu'à sa mort. Mais là, par exemple, son acte de décès, comme pour nombre de femmes, comporte SP, sans profession. Personne n'a écrit qu'elle avait été photographe et qu'elle avait encore, je pense, son atelier parisien.
Voilà maintenant presque 15 ans que, comme moi, un peu par hasard, Marie-Françoise Bastide-Lesourd a découvert le nom d'Elisabeth Disdery.
Il y a de quoi faire, vous avez de quoi travailler pendant plein d'années.
Depuis, ce nom l'a amenée à en rencontrer d'autres, comme ceux de Fanny Raoul ou Marie Braquemont. Pour partager ses recherches, elle a créé le blog Elles aussi en Bretagne. Et aujourd'hui, elle continue de tirer sur le fil sans fin du matrimoine.
Elle est arrivée dans ce village à Poyé au tout début des années 70, donc en 1972. Elle y est arrivée tout à fait par hasard. Je pense qu'à l'époque, elle avait 38 ans. Elle revenait de vacances, tout parisien qui se respecte.
La voix que vous entendez est celle de Jérôme Sauter, directeur artistique du centre Gwynzegal. Pour continuer de remonter les traces du matrimoine régional, je me suis rendue à Guingamp afin de le rencontrer. Là-bas est actuellement exposé un extrait de l'œuvre immense de Madeleine de Cinetti.
Il y avait beaucoup de monde sur la route, donc elle a décidé d'aller dans le village le plus paumé qu'elle pourrait trouver. Donc elle a quitté la route nationale et elle est tombée sur Poyé. Ça aurait pu être un autre village, mais elle a décidé de passer la nuit dans ce village qui est à 60 km de Rennes. Et le lendemain matin, en fait, elle est allée se balader et elle a fait quelques rencontres pendant cette journée. Et ce jour-là, elle a décidé de changer de vie. En fait, son métier, c'était illustratrice, donc elle travaillait pour des magazines. Et elle n'était pas vraiment photographe, mais son mari était journaliste, un journaliste américain qui écrivait à Paris pour les Nations Unies. Et donc ce jour-là, elle a décidé elle-même de s'installer à Poyé, toute seule. Et étrangement, elle y est restée 10 ou 11 ans, en fait. Et c'est à cette occasion qu'elle a réalisé 55 000 photographies, ce qui est assez énorme en fait, dont une grande partie en diapositive couleur. Un journaliste professionnel, il va passer une journée, 10 jours, 15 jours, un mois quand il est très sérieux, mais personne ne va vivre 10 ans dans un village de 300 habitants. Donc en fait, c'est vraiment la durée et la qualité de la relation qu'elle a eue avec ces gens qui ont déterminé aussi la qualité de ses photographies. C'est une forme d'intimité, de proximité qu'on ne peut pas reproduire en quelques heures ou en quelques jours ou en quelques semaines. On peut parler de cette photographie qui est une photographie assez singulière où on voit un cochon qui est éventré, étalé sur la table de la cuisine. Alors, aujourd'hui, ça pourrait être une image qui est choquante, mais en fait, on se rend compte qu'à cette époque, c'est une image assez familière, en fait, parce que voilà, l'animal fait partie de la vie quotidienne. Évidemment, on en mange, donc on accepte de le tuer. Là, on se rend compte que sur la table, on a encore les tasses du petit déjeuner qui cohabitent avec cette scène qui paraît un peu étonnante. Et je crois que la petite fille qui s'appelle Béatrice, qui est l'enfant de la famille, qui aide sa maman à dépecer cette bête, quoi. Je trouve que c'est une image assez étonnante. Ouais.
Comment vous êtes parvenu à connaître les noms des personnes sur les photos ? Elle les avait marquées sur des carnets ?
Alors oui, Madeleine de Cinetti, elle a tenu une sorte de journal intime, en fait, sur toutes ces années et aussi plus tard. Mais en fait, elle a tenu un journal intime où elle écrivait à la fois sa vie personnelle, mais aussi des descriptions du village, des gens qu'elle a rencontrés, etc. Voilà, ces gens-là faisaient partie de son quotidien ou de son imaginaire, parce que Madeleine en parlait tout le temps, parce qu'en fait, cette aventure photographique, c'est la grande aventure de sa vie, quoi. Quelque part, j'ai l'impression qu'elle a photographié une France rurale générique, c'est-à-dire qu'elle fait appel un peu à notre inconscient collectif et on a tous l'impression d'avoir déjà vécu aussi ces images, même si c'est absolument pas vrai, ou si peut-être on se les est fantasmés par la littérature ou par le cinéma, mais on a l'impression de connaître cette France, quoi. Qu'elle photographie, c'est vraiment le quotidien, quoi. Elle avait vraiment son appareil tous les jours avec elle, tout le temps. Et voilà, les gens qui l'ont connue le disent, hein, elle photographiait tout le temps, quoi. Voilà, elle avait vraiment un peu cette obsession, hein. Il y a quelque chose qui tient de l'obsession quand on fait autant d'images sur un seul sujet. De l'obsession et de l'amour aussi, parce qu'en fait, elle a un vrai amour pour ces gens, en fait. Là, il n'y a aucun doute. Je trouve qu'il y avait quand même une forme de modernité dans son choix de s'installer toute seule dans un petit village alors que son mari vivait à Paris. Enfin voilà, aujourd'hui, ça peut paraître une chose banale, mais je pense qu'il y a une forme de modernité quand même dans cette décision, dans cette liberté qu'elle avait, quoi.
Quand vient l'automne, il est temps de tuer le cochon, de serrer les fagots qui flamberont tout l'hiver dans les vastes cheminées de pierre. C'est aussi la fête des châtaignes que l'on grille dans la poêle à trous. Puis, l'hiver est là, il faut casser la glace dans les abreuvoirs. La vie se rétrécit autour des foyers. Mais bientôt, les enfants recommencent à jouer dans les prés. C'est le printemps à Poyers.
Alors, je m'appelle Héloïse Luzzati, j'ai créé une association qui s'appelle Elle Creative Woman, dont le but est la découverte et la mise en lumière de l'œuvre inconnue des compositrices. D'abord, moi, je suis musicienne, je suis violoncelliste. La première étape, ça a été de me rendre compte que moi-même, je ne jouais pas d'œuvres composées par des femmes. Une fois que j'ai fait ce constat, c'est devenu une urgence, quelque part pour moi, de savoir qu'est-ce qui avait été écrit et de comprendre aussi, bien sûr, pourquoi, quelles étaient les explications de cette invisibilité des compositrices. Et effectivement, donc après, je me suis mis à faire beaucoup de recherches pour savoir qui, quoi, comment. Et des noms de compositrices, c'est assez facile d'en trouver. Après, quels sont leurs catalogues, qu'est-ce qu'elles ont écrit, comment on trouve les partitions des œuvres qui n'ont pas été rééditées ou pas éditées du tout. D'ailleurs, ça existe aussi malheureusement beaucoup. Et comment on s'en fait une idée, parce que contrairement à la littérature ou même à la peinture, quand on regarde un tableau, on peut s'approprier directement l'œuvre. Quand on lit un livre, on prend le livre, on s'approprie aussi directement l'œuvre. Quand il s'agit de la musique, peu de gens peuvent prendre une partition et se dire « Ah ben oui, c'est bien ou c'est pas bien. » En fait, ça ne suffit pas. Il y a un intermédiaire qui est l'interprète qui... d'abord complexifie du coup la méconnaissance de l'œuvre des compositrices, parce que ça, c'est un intermédiaire qui n'est pas gratuit. Et donc du coup, soit c'est joué en concert, soit c'est enregistré, mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'approprier directement l'œuvre. Donc effectivement, réfléchir à une fois qu'on a retrouvé des partitions, qu'on les a lues et qu'on se dit « Ah ben c'est bien », d'ailleurs parfois c'est pas bien et on les laisse dans leur carton, mais quand c'est bien, quand c'est vraiment bien, de réfléchir à comment faire pour qu'elles ressortent et qu'on puisse les connaître.
Et justement, parmi les compositrices qui ont fait un travail bien, vraiment bien, et qu'Héloïse Luzzati a voulu mettre en avant, on trouve une certaine Rita Stroll, née à Lorient en 1965.
Rita Stroll, c'est un nom, c'est pas une petite compositrice, donc c'est un nom que je connaissais moi en tant que violoncelliste. Après, la difficulté de Rita Stroll, c'est que quasiment aucune de ses partitions n'est éditée. Donc c'est comment on se procure sa musique. C'est plutôt la vraie difficulté, elle est là en fait. Elle a écrit une sonate pour violoncelle et piano qui a été enregistrée deux fois ces dernières années, dont un des deux enregistrements a eu beaucoup de succès parce que ça a été enregistré par un violoncelliste qui est très connu. Et donc du coup, ça a donné effectivement pour les violoncellistes, on va dire, la connaissance de cette compositrice, alors qu'effectivement, je pense qu'avant, personne n'en avait jamais entendu parler. Mettre en lumière ce répertoire me passionne de toute façon, parce que ce sont parfois des chefs-d'œuvre qui ne font pas partie de l'histoire de la musique parce que signés par des femmes. Et ça fait une petite frontière qui est très qui peut paraître mince comme ça, mais en fait c'est assez important. C'est vraiment cette sensation qu'on est privé d'une partie de l'histoire de l'art en général et de l'histoire de la musique là plus précisément.
Et pour avoir quelques informations complémentaires, j'ai contacté Kaelic Baucher, l'interprète que vous entendez en fond sonore.
Ce qui est notable dans le fait qu'elle écrive des opéras, c'est pas qu'elle écrive des opéras, c'est le fait que ce soit une femme qui, à la fin du 19e, n'écrive que des opéras. En fait, les femmes, à cette époque, elles écrivaient surtout au piano, puisqu'elles avaient été en classe, pratiquement qu'en classe de piano, puisque les autres instruments, il n'était pas question qu'une femme fasse du violoncelle et écarte les cuisses pour mettre le violoncelle entre ses jambes. Herita, pas du tout. Donc certes, elle écrivait grâce au piano, mais elle a écrit pour orchestre tout de suite, et même des symphonies. C'est, je pense, vraiment une compositrice notable qui est passée sous silence complet.
Alors, pour éviter que le silence ne dure plus longtemps, Kaëlic Baucher s'est lui aussi lancé dans les recherches et l'approfondissement des partitions de Rita Stroll. D'ailleurs, à l'Opéra de Rennes viennent d'être enregistrées pour la première fois 7 de cette mélodie totalement inédite. Elles seront dévoilées grâce à la voix de Brenda Poupard, une bretonne mezzo-soprano. Totalement oubliée, il y a quelques années encore, la prolifique compositrice lorientaise Rita Stroll débute une nouvelle vie grâce à la curiosité des passionnés. Des musiciennes, chanteurs et chanteuses comme Héloïse Luzzatti et Kaëlic Baucher recherchent ses partitions et jouent ses œuvres pour qu'elles puissent enfin intégrer les répertoires contemporains.
Il y a plein de peintresses aussi, la salle de Pont-Aven, les étrangères, on a parlé de certaines, mais il y en a plein d'autres, il y avait des anglaises, des autrichiennes.
Quand j'ai rencontré Adeline, Marie-Laure, Élise et Justine de HF Bretagne, elles en étaient qu'au début de leur recherche matrimoniale. Mais pourtant, je me souviens qu'elles m'ont presque immédiatement tendu des piles de livres, cité des noms de femmes par dizaines dont je n'avais jamais entendu parler. Et depuis, les recherches n'ont jamais cessé. Je dirais même qu'elles se sont amplifiées, puisque comme on l'a vu, un nom amène souvent à un autre, etc.
Moi, par exemple, je suis arrivée, j'avais aucun nom. Et c'est amusant, parce que c'est en entendant les autres donner des noms que là, il y avait plein de petites étincelles qui se faisaient. Et je me disais, ah oui, une peintre, ah, Clotilde...
Un an plus tard, j'ai donc voulu leur demander, à Élise, Justine, Adeline et Marie-Laure, quelles femmes rencontrées dans leurs recherches les avaient particulièrement marquées et dont elles auraient aimé parler.
Adeline, elle en a 425.
Il y a Yvonne Pagné qui était grand reporter, résistante, grande reporter, écrivaine, qui s'est échappée des camps, qui a été rattrapée, et après elle est partie faire reporter de guerre.
La photographe Anne-Catherine Arredon, dont on n'a pas parlé non plus, elle par contre on retrouve assez facilement ses photos, mais qui a documenté la période de la Première Guerre mondiale, je crois, de façon quasi ethnographique. Des musiciennes sûrement. Ça, je crois que c'est peut-être le plus dur à trouver quand même. Des musiciennes, des compositrices, c'est peut-être celles qui ont été le plus oubliées et effacées.
On avait au tout début de ce projet une membre d'HF qui s'appelle Céline, qui nous a mis sur la piste d'une chanteuse de jazz qui s'appelle Mirou, qui a joué et chanté beaucoup à Rennes. Et voilà, on continue à mener l'enquête sur cette personnalité de chanteuse de jazz, Mirou, dont on a perdu la trace.
Des danseuses, on n'a pas trouvé non plus, je crois, vraiment.
Une danseuse classique. Ah. J'ai cherché mon fichier, j'ai ramené mon petit fichier.
Ah, c'est un fichier.
Ça doit être
une fiche Bristol par femme.
Oui, et donc c'est classé
une belle
par...
belle boîte violette.
En velours.
Non, en papier.
Et t'as fait un classement
Alors, j'ai classé par région, par siècle, et après, les dernières années, comme il y en a beaucoup plus vers le 20e, 19e, je les ai un peu classées. Donc elle, c'est du... À mon avis, c'est Morbihan. C'est violette, je crois. On va regarder. Mais je vous dis pas que je vais trouver. De lettres, de Seine.
Tu sais combien de noms tu as au total ?
300 quelque chose, mais j'ai pas fini.
300 et quelques.
300,
donc ça
oui.
Veut dire qu'il y a un peu plus d'un an, quand on a commencé, on avait 90 noms, je crois, quelque chose comme ça, et là, t'en as plus de 300.
Oui, mais il y a vraiment, pour les petites, les noms des entrepreneurs, parce qu'il y a plein de femmes entrepreneuses qui sont vachement intéressantes. Il y a même une femme armatrice.
En fait, quand on commence à penser matrimoine, c'est un peu comme si on déployait des petites antennes et on devient beaucoup plus
ouverte à tout ce qu'on peut entendre, lire, et c'est là qu'on va capter des noms aussi, je trouve.
J'ai pensé aussi en cours de route à Naï Grosmort. On l'a pas citée, en fait. Moi, j'en ai entendu parler, puisque originaire du côté de Morlaix, Finistère. Elle est née en 1923, morte en 2015. Et ça permet aussi de parler, en fait, quand on est originaire du Finistère, par exemple, il y a des personnes, des femmes, donc, en l'occurrence, qui sont finalement très célèbres localement, mais ne sont pas connus peut-être dans d'autres départements et ici en Ille-et-Vilaine. Et Naï Grosmort, elle est connue pour nous en Finistère parce qu'elle a produit une trentaine d'ouvrages, des recueils de poésie, des contes, des nouvelles. Mais finalement, son nom n'est pas si connu que ça au-delà du Finistère.
Donc j'ai trouvé le nom de la...
C'est Violette Verdi, qui est du Finistère, qui est danseuse classique, directrice de ballet, qui a commencé au Ballet des Champs-Élysées en 45, qui a été soliste au London Festival Ballet entre 54 et 55, qui a fait carrière à New York.
J'adore sa boîte, elle est trop belle. C'est qu'on la décrypte.
Donc voilà ma boîte à femmes.
Oui, puis on l'a vu dans le groupe, juste d'être capable de rapprocher le territoire qu'on connaît bien d'une femme dont on découvrait le nom, ça changeait des noms qu'on a en tête, des statues qu'on a...
Au fil des recherches, la liste des grandes oubliées ne cesse de s'allonger. Et il est impossible dans l'île aux femmes de toutes les évoquer. Mais vous aussi, comme nous, comme Lydie Poré, Marie-Françoise Bastide-Lesourd, Héloïse Luzzatti et Kaylik Baucher, vous pouvez vous y mettre en allant fouiller dans les caves et greniers, en partant sur les traces d'un nom aux archives ou en questionnant les gens autour de vous.
Laissons la boîte ouverte.
Car rappelez-vous, derrière un nom se cachent souvent des histoires surprenantes.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton. Une série de reportages réalisés par la Corlab en partenariat avec HF Bretagne. À réécouter sur corlab.org.